Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Le roman des anges, c'est un livre qui est paru il y a quelques mois et je reçois, et c'est un troisième rendez-vous dans cette série des clés pour vivre, vous le découvrez, son auteur, dont Pierre Doat, qui est prêtre de la communauté Saint-Martin et qui est recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, qui reçoit près de 3 millions de visiteurs et puis de pèlerins. Ça ressemble et ça se rapproche aussi du nombre aussi de pèlerins et puis de touristes ici dans ce sanctuaire marial de Lourdes, comme dans tous les sanctuaires. Il y a un enjeu spirituel. Et quand on parle enjeu spirituel, on parle parfois de bataille, de combat spirituel. Et il y a toujours ce monde invisible, ce monde aussi des armées célestes. Il y a bien une armée céleste au-dessus de nous, dont Pierre Doat.
Alors dès qu'on parle du monde invisible, on est obligé d'utiliser des mots qui sont toujours insuffisants. C'est l'Écriture qui nous parle des armées célestes, des armées d'anges. Jésus l'évoque, par exemple, lors de son procès avec Pilate. Il parle des légions d'anges qui auraient pu venir à son secours s'il l'avait décidé. Donc c'est les Écritures qui nous parlent de ces légions d'anges, de ces milices célestes, de ces armées des anges, etc. Alors il ne faut pas l'entendre au sens matériel du terme, il faut l'entendre au sens analogique, c'est-à-dire qu'il y a un combat qui se joue dans le monde invisible, un combat proprement spirituel qui se joue dans le monde invisible, un combat qui oppose Dieu et celui que Jésus décrit comme étant l'adversaire de l'humanité, celui que Jésus décrit comme étant l'accusateur, etc., c'est le démon. Voilà. Et donc il y a des anges qui sont spécialement affectés à ce combat direct contre le démon, qu'on décrit avec un vocabulaire guerrier. Et le premier d'entre eux, c'est Saint-Michel, évidemment, qui est décrit comme étant le premier des anges de la milice céleste. Voilà.
Alors vous êtes vous-même recteur de ce sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Vous pouvez très vite profiter de ce passage aussi dans la série des clés pour vivre, puisque nous évoquons aussi les anges, l'archange Saint-Michel et l'histoire de ce sanctuaire.
Alors c'est un sanctuaire qui est très ancien, puisque ses origines remontent au 8e siècle. Il a été créé par un évêque sur l'invitation, et même l'invitation lourde et pesante de Saint-Michel, puisqu'il est apparu à trois reprises à Aubert, donc l'évêque d'Avranches à l'époque. Il est apparu en songe, comme l'ange l'avait fait aussi déjà pour Saint-Joseph dans l'Évangile. Et en fait, Michel demande à Aubert de lui construire un sanctuaire en haut du mont Tombe, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Il faut imaginer le mont Saint-Michel sans aucune construction, sans habitants, sans rien. Aubert, après ce premier rêve, se réveille pas très convaincu de l'utilité de ce projet et donc il ne fait rien. Deuxième nuit, deuxième rêve, exactement le même. Saint-Michel lui apparaît en lui disant la même chose. « Je suis Michel, l'archange du Seigneur, je veux que tu construis sur le mont Tombe un sanctuaire en mon honneur. » Et là, encore une fois, Saint-Aubert ne fait rien le lendemain. On peut s'étonner de cette dureté de cœur de Saint-Aubert, même si en même temps on comprend l'idée d'aller construire un sanctuaire dans ce lieu difficile d'accès, dangereux même d'accès, dans ce lieu où il n'y a pas d'habitants et dans ce lieu où les villages autour sont surtout occupés par des pagano-chrétiens plus que par des chrétiens convaincus. C'était pas l'idée du siècle en soi. Hein. Et donc on peut comprendre pourquoi Saint-Aubert a mis du temps à accepter cette idée. Il a fallu un troisième rêve, une troisième intervention de Saint-Michel, où cette fois-ci Saint-Michel ne dit rien. Il est silencieux, il se tient silencieux. Enfin, Aubert le voit silencieux à ses côtés. Mais il a l'air un peu tendu quand même. Et Saint-Aubert voit dans son rêve Michel qui appuie avec son doigt sur le haut de sa tête. Et le lendemain matin, quand Saint-Aubert se réveille, il s'aperçoit qu'à l'endroit où il avait rêvé que Saint-Michel avait posé son doigt, eh bien, il y a une sorte de creux, une sorte de trou, ce qui va le décider à aller construire le sanctuaire. Et ce sanctuaire, et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous aujourd'hui, c'est que ce sanctuaire va très vite attirer des pèlerins avec comme première intention le désir de prier pour les morts. Voilà. On a oublié nous, un petit peu les chrétiens du 20e, 21e siècle, c'est que le premier motif de prière pour à Saint-Michel, c'est de le prier, de le convoquer pour qu'il prenne soin de nos défunts. Voilà, Saint-Michel, c'est l'archange qui prend soin des défunts. Et puis voilà, plus tard, je passe très vite sur les siècles, mais ce sanctuaire va prendre une ampleur européenne au cours du Moyen-Âge et devenir un des premiers lieux de pèlerinage de toute l'Europe chrétienne. Jusqu'à nos jours, voilà, encore aujourd'hui, c'est un lieu où viennent beaucoup de pèlerins qui prient pour ces deux intentions, pour leurs défunts, et puis aussi pour un deuxième aspect de la mission de Saint-Michel qui est plus connu, c'est celui de combattant contre le démon. Voilà, on invoque Saint-Michel comme celui qui mène le combat contre le démon, donc on le sollicite pour qu'il intervienne dans nos propres combats contre le démon.
Alors, on l'invoque, et on, pour ceux et celles qui vous écoutent, qui n'ont peut-être pas approché l'archange Saint-Michel, ou qui entendent et découvrent aujourd'hui même cet archange Saint-Michel, on l'approche comment, et puis comment on le prie tout simplement dans l'aujourd'hui, dans le quotidien de nos vies, cet archange. Quand tout va mal dans nos vies
Alors quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien, on peut le prier quand même quand tout va bien. Dans les Écritures, donc, il nous est présenté comme celui qui combat et même celui qui va remporter au nom du Christ le dernier combat de l'histoire de l'humanité. Ce dernier combat qui l'opposera directement au démon qu'il mettra hors d'état de nuire. Donc notre manière de le prier, je pense, en plus cette année on rentre dans l'année de l'espérance, notre manière de le prier, c'est déjà de poser des actes de confiance, de dire au Seigneur, de dire aussi à Saint-Michel que nous avons confiance dans le fait que nous ne sommes pas seuls face à ces combats que nous traversons. C'est une des premières armes du démon, c'est de nous plonger dans une solitude absolue. Voilà. Et prier notre ange gardien, prier Saint-Michel, prier le Christ, prier la Vierge Marie, contribue à nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur nos frères chrétiens, nous pouvons compter sur l'intercession des saints, etc. Mais les anges ne sont encore une fois pas tellement dans l'intercession, mais plutôt dans l'intervention. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une action possible de Saint-Michel et de notre ange gardien pour nous faire traverser ces épreuves qui sont les nôtres, alors qu'ils peuvent être dont nous pouvons être les responsables, c'est ce qu'on appelle le péché, ou dont nous ne sommes pas du tout responsables, c'est ce qu'on appelle les épreuves, la souffrance. Voilà, en tout cas, nous ne sommes pas seuls face à ces épreuves, et prier Saint-Michel, tout simplement en l'invoquant. Alors on peut prendre la prière de Léon XIII, qui est une belle prière adressée à Saint-Michel, mais n'importe quelle autre prière adressée à notre ange, adressée à Saint-Michel, peut contribuer à nous faire sortir d'abord de cette solitude, qui est encore une fois là, une des premières armes du démon pour nous mettre en danger.
Alors, sur un plan biblique, on retrouve la traversée de ces anges chez les prophètes de l'Ancien Testament. Comment opèrent-ils ces visitations chez les prophètes et ces grandes figures bibliques
Ils interviennent de plein de manières. Ils interviennent tout le temps dans la Bible, déjà. Très important de se rendre compte que c'est pas... Voilà, et puis que c'est pas une invention du XVIIIe siècle décadent, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la révélation chrétienne. C'est un théologien dominicain qui disait il y a quelques années que si on arrachait de notre Bible toutes les pages où il y a le mot ange, il ne resterait plus quelques centaines de pages. Les anges interviennent du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, jusqu'au dernier, le livre de l'Apocalypse. Et ils interviennent. Alors, les points communs entre toutes ces interventions, c'est que ce sont toujours des interventions déterminantes. Les anges n'interviennent pas pour nous donner l'heure ou la température de l'air. Voilà, ils interviennent pour des informations importantes. Alors on peut penser évidemment à l'Annonciation, l'Annonciation à Marie, l'Annonciation à Zacharie, mais on peut penser aussi à d'autres interventions qui vont être déterminantes dans la vie de tel ou tel prophète, de tel ou tel patriarche, de tel ou tel... Voilà, on peut penser à Jacob, par exemple. Jacob qui va vivre ce combat contre l'ange du Seigneur. On ne sait pas trop ce qui se passe au chapitre 19 du livre de la Genèse. Toujours est-il qu'il y a une sorte de lutte intérieure, un peu étonnante, entre Jacob et l'ange du Seigneur. Lutte qui va en quelque sorte permettre à Jacob de prendre conscience de sa destinée, de sa vocation particulière dans le plan de Dieu. Voilà. Et donc ils interviennent de plein de manières différentes. On peut penser, alors ça c'est très très beau, si vos auditeurs ne l'ont jamais lu, c'est quelque chose qu'il faut lire, c'est le livre de Tobie qui nous raconte la façon dont un ange particulier, en plus Raphaël, un des trois archanges, accompagne Tobie dans ses aventures, dans ses péripéties. Voilà, donc la façon dont ils interviennent peut être très différente, mais ils interviennent toujours de façon déterminante.
Alors, si vous deviez donner un simple conseil, peut-être une clé de lecture, bien sûr, votre roman, le roman des anges, dont Pierre Doat, mais une lecture biblique avec des passages bibliques faciles d'accès pour des auditeurs qui vous écoutent maintenant ici.
Alors, je redonne l'exemple du livre de Toby. Parce qu'il plaît à tout le monde. Alors, oui. il plaît aux garçons parce qu'il y a plein d'aventures, il plaît aux filles parce qu'il y a une belle histoire d'amour. Donc, c'est un livre qui plaît beaucoup. Un autre livre, plus difficile d'accès là, mais qui donne quelque chose à voir du monde invisible, c'est le livre de Daniel, avec ses visions apocalyptiques de Daniel. On s'y perd un petit peu, mais ceci dit, la lecture de ce livre-là permet peut-être à celui qui lit, au lecteur, de se dire, voilà, ce monde invisible qui m'échappe un petit peu, il est proche quand même. Il est proche et il est en communion avec le monde visible dans lequel je vis. Voilà, c'est pas deux mondes séparés, comme par une espèce de mur infranchissable. Il y a une vraie communication entre le monde invisible, le monde des anges, et le monde des hommes. Et cette communication-là, cet échange d'amitié, cet échange de charité, quand c'est de bons anges, ou cet échange de péchés, quand ce sont de mauvais, ça explique beaucoup de choses aussi sur ce qui nous entoure, voilà, dans le monde dans lequel nous vivons.
On a besoin de ces anges qui interviennent aujourd'hui dans notre monde, certainement.
Ah oui, on en a besoin, on a toujours eu besoin, et on en a toujours besoin.
Et plus que jamais.
Voilà, plus que jamais.
Alors, je vais vous proposer de vous retrouver, c'est la fin de ce troisième épisode. On se retrouve demain avec ce monde invisible. Alors, on communique et on est en communion. Hein. Vous avez parlé aussi d'amitié, dont Pierre Doat. Donc, entrons au fond en amitié, un acte aussi de charité. Rencontre, écoute et puis discernement pour ne pas se tromper aussi d'anges. Hein, restons avec le bon et les bons anges. Relisons peut-être quelques passages pour certains passages bibliques de l'Ancien Testament. Vous avez donné aussi cette belle figure de Tobie, donc épisode à relire, et puis ce grand prophète aussi de Daniel, le prophète aussi Élie. En fait, il y a de belles lectures, de belles histoires qui parsèment aussi ce livre saint. Et puis il y a aussi votre livre, qui est un roman, Père de droite. Ce livre s'intitule Le roman des anges aux éditions Salvator. À demain, même lieu, même heure.
Merci.